Moi, c'est André de Mbujima, Katanga Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi, la fréquence de la paix, pour vous tenir compagnie. Et nous sommes heureux d'être avec vous dans Parole aux auditeurs. En vue de stabiliser la situation économique, le Premier ministre Bruno Tshibala a sollicité le 12 juin dernier auprès du Fonds monétaire international FMI l'ouverture des discussions susceptibles de déboucher sur un appui financier d'urgence dans le cadre de la facilité des crédits rapides. Dans sa lettre datée du 29 juin dernier, le FMI, à travers sa directrice générale, a posé certains préalables avant d'entamer ces discussions, notamment la stabilité politique, la stabilité du cadre macroéconomique, la maximisation de recettes publiques, la compression des dépenses publiques ainsi que la définition d'une trajectoire de stabilité politique. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. J.R. Lungembo est à la réalisation et coordination de ce magazine, mis en onde par Héritier Sidiakala. Et Pierrot et la Menji vous le présentent sous la supervision de Martin Sebujangwe, fidèle, les auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Menji.
Nous sommes ensemble pour cet échange autour de la question de l'aide économique internationale sollicitée par le Premier ministre auprès du Fonds monétaire international et la réponse, les FMI qui estiment qu'il faut d'abord certains paramètres qui doivent être maîtrisés avant d'entamer les discussions probablement d'ici les mois de septembre. Comment vous réagissez à cette actualité? Nous avons associé à cet échange le professeur Tcheta Albert Bampa qui est analyste économique. Professeur, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Lungembo.
Voilà, c'est Pierrot et la Meji.
Ah ouais, c'est Pierrot, ok. Bonjour, Monsieur Pierrot.
Voilà, merci, professeur. Alors, le Premier ministre a sollicité cet appui international pendant cette période où la RDC connaît un certain nombre de problèmes. On a évoqué dernièrement les cas de l'instabilité sur le plan économique, sur le plan de la monnaie, l'organisation des élections. Est-ce qu'on peut dire que la sollicitation du Premier ministre est justifiée, professeur?
Bon, il n'est pas vraiment justifié puisqu'il y a un biais dans sa demande. Premièrement, le biais c'est quoi? Le gouvernement demande l'aide au FMI sans avoir d'abord au préalable travaillé sur les décisions à mettre en œuvre. Puisqu'il demande comme ça, le FMI nous aide puisqu'on a des problèmes seulement. Il écrit quoi? Il dit seulement ce qu'il attend de la communauté internationale, notamment aider la République démocratique du Congo, parce qu'il y a un problème de balance de paiement et les réserves sont insuffisantes par rapport pour intervenir sur le marché des change. Ça, ce n'est pas une politique. Donc, le gouvernement, pour adresser cette demande, devait d'abord travailler minutieusement sur les mesures à mettre en œuvre. Et après la réponse de Mme Lagarde, la directrice générale du FMI, c'est hier que le directeur de cabinet du Premier ministre a réuni son équipe pour travailler soi-disant et on a vu le communiqué. Il reste seulement que le gouvernement, les experts du gouvernement vont travailler avec la Banque centrale. Ça, ce n'est pas une mesure. Donc, il y a déjà un biais. D'où vient ce biais? C'est le biais vient de la relation financière et politique du FMI, qui est considéré dans le modèle, c'est-à-dire le gouvernement principal, le gouvernement central, au-dessus du gouvernement de la RDC, et le gouvernement local, qui est le gouvernement du Congo. Le gouvernement du Congo, il y a un problème d'asymétrie d'information. Notre gouvernement connaît plus par rapport au FMI la réalité économique du pays. Le FMI ne connaît pas assez le niveau de dépenses et comment est-ce que vraiment le gouvernement congolais va mettre en œuvre pour réduire les dépenses, quels sont les secteurs qui sont recours. On ne sait pas, tout ça, ce n'est pas détaillé. Les gens du FMI viendront au mois de septembre, ils feront combien de jours? Maximum, ils feront 15, 20 jours et ils rentrent. Donc, il y a un problème d'asymétrie d'information. Le gouvernement congolais connaît que le FMI ne peut pas laisser un gouvernement congolais. C'est tout le monde. Mais bon, du coup, qu'est-ce qu'on a? Les gens du monde disent, les gens qui sont connus disent, non, la RDC, c'est le pire d'Afrique, si la RDC retourne encore au conflit, sans gaz, et l'Afrique qui sera impactée, donc il faut toujours les autorités congolaises, ils savent cette information. Mais le FMI, ou bien la Banque centrale, finiront toujours à les aider. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le jargon économique, j'appelle la contrainte budgétaire. Le comportement de la contrainte budgétaire est relâché. C'est-à-dire, déjà, dans la tête du Premier ministre, il sait qu'il y aura cette facilité, ce soutien financier. Même si aujourd'hui, la garde conditionne, il faut faire ceci. Non, on a toujours dit ça. Il y a toujours ça. La FMI finira toujours à donner ses.
Alors, oui, professeur, oui.
Deuxième point, et c'est ce qui est très important. Si on regarde l'histoire, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans ici, parce que depuis l'arrivée du président actuel au pouvoir, le FMI nous a aidé deux fois. En gros, on va prendre les deux dates majeures, 2001 et 2009. 2001, puisqu'on a connu, avant l'arrivée du président Kabila, on a connu 6 ans de récession. Le FMI nous a aidé puisque le président Kabila a accepté le programme d'ajustement que le président Mobutu avait refusé, le même programme qu'on avait proposé à Mobutu en 1989, avant la date de la chute du mur. Mais on a proposé le même programme qu'on a proposé à Kabila en 2001. Le président Kabila a accepté ce programme. C'est à ce moment-là, communément appelé les institutions de Bretonnie ont accepté de venir en aide. Ils nous donnent des avances de millions de dollars pour diminuer la quantité de notre monnaie en circulation. Et là, c'était pour quel? On avait quoi? On avait l'hyperinflation. Ce n'était pas l'inflation. On a déjà dépassé le niveau de l'inflation. Il y a une différence entre lutte contre l'inflation et lutte contre l'hyperinflation. C'est là où même Matungu le fait comme une erreur. Il se dit, non, je suis ministre, j'ai réussi en 3 mois. Il vient de passer il n'y a pas longtemps. Radio Top, votre confrère Top Congo, il dit non, ben, vous savez, l'exemple, nous on s'est mariés en avril 2001, et puis dans 3 mois déjà, on a eu les résultats. Non, c'est ça, c'est lutter contre l'hyperinflation. La RDC depuis 2001 n'a pas lutté contre l'inflation. La lutte contre l'inflation, le gouvernement et la Banque centrale n'identifient pas bien la cause profonde de l'inflation, de la dépréciation. Quelle est la cause profonde? Les déséquilibres, j'arrive. Quand on observe, vous m'entendez?
Oui, c'est bien, professeur, on vous écoute. Oui, vous êtes sur les antennes,
voilà.
Allez-y, oui.
Quand on observe, lorsqu'on observe notre balance, le sort de la balance courante, on remarque que depuis 2003, le sort des déficitaires. Alors que le FMI, il y a des programmes 2001 jusqu'à 2004, 2001 jusqu'à 2005, on va dire ça. Et puis un autre programme en 2009 jusqu'en 2012, des programmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a toujours des problèmes des déficits, des problèmes de balance de paiement. Puisque quand on regarde ces structures-là, il y a toujours les déficits. On n'a pas eu un excédent des balances de paiement, des balances commerciales des biens et services. Donc, le problème, le mesure des FMI, bien sûr, on a besoin de cette peut-être aide aujourd'hui, mais le problème, c'est pas ça qui va résoudre le problème.
Professeur, parce que vous estimez que les interventions, c'est pas le fait que les FMI puissent intervenir qui va résoudre le problème. Est-ce que les mesures qui sont prises chaque fois par le gouvernement congolais sont prises sur le plan structurel ou ce sont des mesures conjoncturelles telles que vous l'avez expliqué? Et quand bien même le FMI pourra intervenir, si les questions structurelles ne sont pas résolues, est-ce que la RDC peut pouvoir arriver vraiment à cette stabilité?
Non, c'est ce que je viens de dire. On a 15 ans, on a été aidé deux fois, mais on a, aujourd'hui, il y a toujours le problème des. C'est-à-dire, si on n'a pas des réformes structurelles, j'appelle en profondeur, on n'aura pas résolu le problème. Le problème de notre problème, je dis, la proportion à importer est plus élevée par rapport au taux de nos exportations. Donc, on n'arrive pas. Même si on regarde un indicateur que je disais moi ici, puisque si même si on regarde la banque, en nous basant seulement sur les taux de couverture, c'est quoi le taux de couverture? C'est-à-dire depuis, depuis l'arrivée du président Kabila, juste. C'est-à-dire le devise, c'est-à-dire on se pose. C'est-à-dire que les devises ici des exportations couvrent celles dont la RDC a besoin pour les exportations. On s'aperçoit depuis les taux de couverture seulement négatif. Donc on ne peut pas résoudre ce problème tant que
pas résoudre les questions structurelles. Voilà, on va revenir. Voilà. Et profonde. On va revenir à vous, professeur, pour évoquer ces réformes structurelles. Quelles sont ces réformes qui doivent être mises en place pour arriver à résoudre cette question? On reviendra à vous, le temps d'ouvrir nos standards et d'écouter les compatriotes congolais qui sont nombreux sur 09 97 06 49 69. Arsène, vous êtes à Kikuit. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour M. Thierry, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capille.
Alors, vous avez suivi, le professeur estime que l'intervention du Fonds monétaire international ne pourra pas résoudre le problème si du côté de la RDC, on n'a pas procédé à des réformes structurelles très profondes. Alors, comment on peut y arriver, Arsène?
Merci beaucoup pour la parole, M. Thierry. Moi, je crois que, à mon avis, d'abord, je prends la parole du professeur comme ma parole, mais je crois à mon avis... Nous, Congolais, nous devons savoir d'abord à nous faire respecter. Comment nous faire respecter? Pour nous faire respecter, c'est d'abord le crédit. Le crédit, c'est pas n'importe qui peut aller dans une banque demander de l'argent et la banque dit, écoutez, monsieur, prenez ce que vous demandez. Il faut un crédit. Le crédit se présente d'abord par le comportement. Quel est le comportement du Congolais face à la communauté internationale? Au moment où le Premier ministre demande secours à la communauté internationale, mais au même moment, vous criez aussi, vous dites, écoutez, nous sommes souverains. Nous détruisons votre souveraineté. Aujourd'hui, les réformes structurelles doivent s'accompagner avec les réformes des comportements aussi. Nous devons voir comment nous devons générer des recettes. Par exemple, je prends un petit exemple. Le ministère des Affaires foncières. Le ministère des Affaires foncières, c'est un ministère qui peut générer beaucoup de recettes. Nous avons assez de terres chez nous. Les terres sont en train de chômer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse les chefs de terre, ce qu'on appelle entre guillemets chefs de terre, ils s'amusent avec. Qu'est-ce que l'État gagne dans ça? Là, je vais interpeller le ministre des Affaires foncières de mettre de l'ordre dans son domaine pour que de ce petit exemple-là, les Congolais vont acheter des terres. Vous allez attendre un étranger venir ici acheter des milliers d'hectares et puis il vous donne un petit rien. Non, donnez aux Congolais. Les Congolais vont générer des recettes. Il y a beaucoup de possibilités de générer des recettes ici à l'intérieur du pays, sans compter à l'Occident. Mais s'il y a un comportement qui laisse à désirer, comment ni les Congolais, ni la communauté internationale ne va appuyer les actions du gouvernement? Donc il faut une réforme d'abord au niveau de la mentalité de la gestion du pays. Dès que nous aurons cette réforme-là de mentalité, alors là, nous aurons à faire de nos commentaires sur de grandes théories économiques et ça va passer tranquillement. Donc, moi, j'appelle le gouvernement actuel de faire la première réforme qui est la réforme du comportement de la gestion de la nation. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire.
Merci beaucoup, Arsène. Vous évoquez la question de la gouvernance, parce que vous avez parlé des recettes qui peuvent être générées localement. D'ailleurs, le FMI, dans cette réponse, estime également que parmi les préalables, il y a la maximisation de recettes du secteur public, c'est-à-dire notre capacité de mobiliser les recettes, de les canalisation vers les trésors publics. C'est aussi l'une des conditions avant de pouvoir engager les discussions. Et là, c'est une question de gouvernance. Vous estimez que tout passe d'abord par cette question de gouvernance avant de pouvoir penser qu'il faut recourir à l'extérieur. Merci beaucoup, Arsène. On retourne ici à Kinshasa. Ingénieur Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à toute l'équipe et au professeur.
Alors, vous avez suivi, le professeur évoque la question de réformes structurelles profondes et Arsène estime que c'est une question de gouvernance parce que si la gouvernance est améliorée, il y a moyen de pouvoir générer les recettes à l'interne.
Oui, tout le monde a raison. Le FMI, le professeur et Arsène. Pourquoi? Je commence par le FMI. Le FMI, s'il a dit ça, vous savez, une banque ne prête pas quelqu'un parce qu'il a demandé. Hein. Une banque prête si au moins vous lui garantissez les conditions de remboursement. Il faudrait que l'objectif pour lequel vous empruntez puisse être réalisé. Alors, le FMI est là pour la notion de réserve d'échange, pour équilibrer la balance des paiements. Si le FMI constate, par exemple, que s'il vous donne de l'argent sans pour autant que vous mettiez un peu de l'eau dans votre boutique, cet argent peut être utilisé soit à des fins politiques, soit dans des dépenses allant de tel ou tel ordre, et si vous ne maximisez pas aussi vos recettes, vous ne saurez pas équilibrer la balance des paiements. Malgré cela, il est de bon droit de la part du FMI de vous demander de mettre de l'ordre parce que tous ces préalables sont objectifs. Quand on dit par exemple la stabilité... Allô ?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Ok, quand on nous parle de la stabilité politique, mais c'est vrai, là aussi je rejoins les profs, c'est-à-dire quand je vois bien les conditions données par le FMI et la politique structurelle dont parlent les profs, c'est la même chose. Mais le FMI l'a dit en d'autres termes. Parce qu'en disant la stabilité politique, mais la politique, partout où, quand est-ce que nous pouvons parler de la politique ? C'est lorsqu'on prend des mesures conscientes dans un domaine donné afin d'atteindre certains objectifs. C'est là qu'on parle de la politique. D'où il y a la politique sociale, il y a la politique pédagogique, il y a la politique économique, ainsi de suite. Donc le FMI voudrait bien qu'on mette de l'ordre dans la politique. Parce que s'il y a de l'ordre, je vous donne un exemple. Nous avons été à la cité de l'Union africaine.
Oui.
Pour le dialogue. Après, nous sommes allés à la CENCO. Tout ça, ce sont des dépenses. Ce sont des dépenses. Mais s'il y avait de la politique, je peux aller encore un peu plus loin. Rien que ce qu'on a dépensé à l'Union africaine, ça pouvait relancer la MIBA. C'est depuis plus de 10 ans que la MIBA a besoin de 100 millions de dollars. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais donné quoi que ce soit à la MIBA. Or, la MIBA, si elle produit, est-ce que nous irons encore demander de l'argent à gauche, à droite? Mais non. D'où il nous faudrait mettre de l'ordre dans la politique. Dernièrement, vous avez reçu un monsieur intelligent, l'honorable Martin Fayoulou. Il a parlé des fondamentaux de l'économie. Il a insisté sur la production et les prix. Le FMI était ici chez nous il y a peu. Le FMI a démontré, n'est-ce pas, que d'ici décembre, le taux d'échange sera jusqu'à 2000. Mais le taux d'échange, c'est quoi? C'est aussi un indicateur de vos transactions avec l'étranger. C'est un indicateur de la santé de votre économie, parce que les taux d'échange résultent de la balance de paiement. Voilà que si nous n'arrivons pas à mettre de l'ordre dans la boutique, même si on nous donnait, cet argent ne servira à rien. C'est pourquoi on nous demande d'abord de mettre de l'ordre dans notre boutique. Lorsqu'on nous demande, par exemple, de maximiser les recettes. Mais évidemment, parce que la politique budgétaire, c'est cette politique-là qui est la politique qui finance les grands projets de l'économie dans un pays, du développement même. Ce n'est pas la politique monétaire. La politique monétaire, c'est par rapport à la masse monétaire. Mais quant au développement, c'est la politique budgétaire. Elle s'est faite sur base des recettes perçues. Mais si nous n'arrivons pas à maximiser les recettes, c'est pour que nous nous plongeons toujours dans un trou et ce sont nos descendants qui viendront payer, comme nous nous payons aussi pour ceux qui nous ont précédés. Donc là, vous trouvez que c'est tout à fait normal qu'on insiste dans ce sens-là. Et le prof a raison.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, ingénieur Valérie. Vous estimez que le FMI a raison au regard de la situation de l'instabilité politique qui occasionne aussi des dépenses extra-budgétaires. Et dans ces conditions, ça sera difficile. On risque de s'enfoncer davantage. Mais rappelons quand même à un certain moment, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI, avait salué les performances de la RDC ces deux dernières années sur le plan de la stabilité macroéconomique, parce que cela a été évoqué dans cette lettre du FMI. Comment on a pas pu consolider les résultats qu'on a eu à voir dans les temps passés. On pourra poser la question au professeur. Le temps d'écouter ingénieur Gaston qui est ici à Kinshasa. Bonjour. Ingénieur Gaston, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue est clair. Il y a une semaine, on a parlé de cette inflation, de la proposition du premier ministre qui voulait payer les fonctionnaires autour de 1400, mais je crois que ça ne sera pas possible parce qu'il y a la CNAMED qui menace et ce matin les profs aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la demande de ces fonds au niveau du FMI. C'est une solution palliative pour nous parce que nous ne pouvons pas laisser le pays être asphyxié jusqu'à ce point. Mais aussi, le gouvernement doit répondre au cahier des charges du FMI. C'est-à-dire, la situation politique doit être réglée. La crise n'est pas économique. La cause de la crise est politique. Une fois que la politique est réglée, je crois que ce qui paraît à nos yeux aujourd'hui comme une crise économique ne sera plus visible. Mm-hmm. Et en plus de cela, le gouvernement doit toujours entreprendre des démarches pour produire. Nous devons produire. Tant qu'on ne produira pas, on sera toujours soumis à toutes ces demandes-là. Un pays qui ne produit pas, il n'aura pas l'autonomie. Nous serons toujours soumis aux histoires des fonds monétaires internationaux. Voilà mon point de vue. Et donc, le gouvernement n'a qu'à avoir le cahier des charges du FMI et répondre à celui-là pour qu'on trouve une solution palliative. Parce que sinon, on est asphyxié. Si les médecins grévés et la suite, vous voyez ce qui va se passer dans le pays. Donc, ce n'est pas ça. Tous ces gens qui sont au niveau, au sommet de l'État, ils ne se choisissent pas ici. Ils n'ont pas des enfants qui étudient ici. Et donc, pour le peuple, je pense que le gouvernement doit se soumettre à ce cahier des charges du FMI afin d'avoir ces fonds qui sont demandés pour trouver une solution au problème qui dérange en ce moment.
Merci beaucoup, ingénieur Gaston. Vous estimez qu'il revient au gouvernement de répondre à ces préalables posés par le FMI, mais sinon, ça sera difficile de faire face à la situation avec toutes les menaces des grèves. On en parlera la semaine prochaine, hein, parce que le gouvernement ne serait peut-être pas en mesure de pouvoir payer et verser les salaires des fonctionnaires agents de l'État au taux d'échange des 1450 comme c'était prévu. Et voilà, autant de syndicats menacent d'aller en grève. Et pour vous, le gouvernement doit répondre à ces exigences du FMI pour avoir le fonds nécessaire et faire face à la situation. Merci. Nous allons à Lubumbashi. Professeur Ignace, merci d'être avec nous. Bonjour. Professeur Ignace, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, dommage, la réalisation pourra rappeler les professeurs Ignace. Mais comme je le disais tout à l'heure, les débats se déroulent également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Yves de Verling-Galamouloumé dit ceci: si la RDC possédait des vrais dirigeants, on allait résoudre ces genres de questions depuis longtemps sans pouvoir toujours recourir aux institutions de Bretton Woods. Mais c'est un problème de vision tout simplement de la classe politique. Alain Dibitira, qui nous écrit d'Ouvira au sud Kivu, il apprécie les conditions posées par le FMI parce que les autorités congolaises n'ont pas des consciences politiques pour arriver à résoudre nos problèmes d'une manière consciencieuse. Alors, on ne peut que recourir à l'extérieur, au-delà de tout. Le Isaac Bampori, qui, pour lui, le premier ministre, a hérité d'une situation intenable laissée par ses prédécesseurs, dont la gestion était incontrôlée. Mais lui aussi, 3 mois qu'il a passé, ça avait été suffisant pour nous montrer déjà ses indications et ses intentions au lieu de pouvoir recourir directement au Fonds monétaire international. 09 97 06 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct et nous allons accorder des moments à l'autre la parole au professeur.
Écho de développement. Écho de développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences et les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète. C'est dans Écho de développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 6h30, 13h30 et 20h30. En rediffusion le mardi à 9h15.
Professeur Albert Tcheta Bampa, vous avez suivi nos auditeurs. Je voulais tout à l'heure vous poser la question sur les réformes qui doivent être entreprises. Mais cela veut dire que nous sommes dans une situation d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qui doivent être prises en urgence et des mesures qui doivent être prises à long terme, comme toutes ces réformes. Alors, comment on peut se situer par rapport à ces deux extrêmes? Cela veut dire la situation urgente, c'est qu'il faut faire maintenant de la part de la RDC et les mesures qui doivent être prises sur le long terme.
Oui, je vais parler seulement de deux mesures. D'abord, une d'urgence et une mesure de ce que moi je préconise à long terme. D'abord, l'une des mesures que j'ai suggéré il y a un an, depuis un an, je suggère une mesure. Et c'est facile. Même quand vous regardez le même travail que les gens, les FMI viendront faire en septembre, ils ont fait ça depuis 2010. Ils font plus chaque année le même travail. Et c'est l'RDC qui paye la facture. Les gens qui vont venir, ils vont faire les analyses. Comme on fait là, ils vont dans la ligne de la politique monétaire, les estimations, les consommations, ils ont recommandé. Ils ont recommandé à la RDC de donner l'indépendance à la Banque centrale. ils ont recommandé à la RDC des choix, de faire le choix entre la dollarisation complète,
oui,
et la dollarisation et la mesure de dédollarisation. Je vais vous expliquer quelque chose. Posez-nous la question. Aujourd'hui, le taux de dollarisation est presque 100%. C'est-à-dire nous n'avons pas l'autonomie financière, l'autonomie monétaire, c'est-à-dire les dirigeants, l'État congolais n'a pas l'autonomie de sa monnaie. Donc, on ne peut pas toujours dépenser l'argent sous le marché d'échange pour lutter contre la dépréciation. Et on sait bien que cette mesure de la Banque centrale n'aura pas d'effet puisque le niveau de l'économie est très dollarisé. On peut voir ce qui s'est passé hier dans les pays, par exemple, du pays Bolivie, dans plusieurs des pays qui ont connu la même situation comme lui, bien avant, le pays d'Amérique latine, même les Bulgaries, du consort, ils ont adopté, puisque dans un certain état, on peut adopter. C'est que moi, j'ai préconisé une double solution. En même temps, on laisse le taux de change au gré des marchés. Quand j'étais interviewé au mois de décembre de l'année passée par RFI, j'avais expliqué que nous n'avons pas encore atteint le niveau de 45% de dépréciation. C'est au-delà de 45% que la dépréciation commence à détruire les emplois ou commence à provoquer l'inflation. Aujourd'hui, on a dépassé, on a atteint ce point de 45%. Mais j'ai préconisé cette mesure dès le début de l'année 2016 qu'on laisse les taux de change fluctuer au gré du marché. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lisez les papiers de la Banque centrale et même du gouvernement, depuis 2001, la Banque centrale de l'État congolais a un régime, c'est ce qui est officiellement un régime du centre, pourtant plus, c'est-à-dire l'État n'était pas, le gouvernement, la Banque centrale n'était pas intervenue sur le marché du centre. Mais on a perdu toute une année. La Banque centrale a intervenu 6 fois, de début 2016 jusqu'en début 2017, 300 millions de dollars qui n'a pas réussi à baisser la dépréciation. La première mesure, c'est quoi le propose? On adopte, là, dans les 5 à 10 ans, on adopte la dollarisation complète. Cette mesure a des acquis, puisque nous allons apprendre, le gouvernement va apprendre le management des États-Unis, c'est-à-dire la contrainte budgétaire. On doit respecter, puisqu'on aura pu utiliser le revenu de ces réels, qui provoque aujourd'hui l'inflation, la dépréciation de la monnaie. Il y a une lutte entre politique de la Banque centrale et une lutte de la politique de la préférence de financer les revenus par les revenus du ces réels, c'est-à-dire on appelle l'impôt de consommation de l'État. Alors, si nous adoptons ça, nous n'aurons pas besoin, l'État ne fera plus cette mauvaise pratique budgétaire. Et ensuite, la Banque centrale sera crédible. Aujourd'hui, notre Banque centrale n'est plus crédible. Et pourquoi? Il a fait plusieurs mesures. Je vous rappelle ici la vente du dollar. Il a relevé ses taux directeurs plusieurs fois. Et on voit toujours, il y a toujours la dépréciation. Donc, la Banque centrale, comme je dis, n'est pas crédible. Donc, la mesure immédiate et qui ne compte pas à l'économie congolaise, de laisser le cours, c'est-à-dire d'adopter, de faire effectivement, de laisser le taux de change situé au gré du marché, et en même temps, on adopte la dollarisation complète.
Alors, professeur, oui. Oui, mais professeur, quand on regarde dans ces préalables posés par le FMI, les auditeurs sont revenus sur cette question des stabilités politiques. Rappelons quand même qu'à ces jours, avec les incertitudes sur la tenue des élections, on regarde depuis la fin constitutionnelle du mandat du chef de l'État et des institutions en 2016, et quand on regarde les déclarations des uns et des autres, dernièrement, le président de la CENI l'a dit, que c'est pas possible de tenir les élections d'ici avant la fin de l'année. Pensez-vous aujourd'hui que cette question de la stabilité politique, elle peut être résolue en urgence pour permettre l'intervention du Fonds monétaire international?
Oui, bien sûr, c'est le préalable, mais c'est la condition principale. Aujourd'hui, toutes les réformes que le gouvernement peut entreprendre ne peut pas avoir de plus. Les réformes, c'est quoi? C'est nous, la population, qui subissons les réformes, la mesure de réforme. Nous devons accepter d'abord les réformes. Si nous n'acceptons pas les réformes, ils ne sont pas. Aujourd'hui, le gouvernement et n'a pas de crédibilité. Le gouvernement de Tshibala, bien sûr, moi je soutiens toujours le gouvernement de mon pays. Je n'opposerai jamais au gouvernement de mon pays. Ça, c'est ma religion à moi. Je ne peux pas opposer au gouvernement de mon pays. Je soutiendrai toujours une bonne politique de mon pays. Donc, aujourd'hui, il y a un problème politique. Et moi, je le fais. Je le dis depuis 2014-2015. Et les politiciens sont capables de trouver un équilibre préalable. On va dire l'équilibre du décembre 2016, c'est le bon équilibre. Bon, c'est le moins mauvais. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce qui bloque, c'est ça. Et en réalité, soyons honnêtes, il ne faut pas être hypocrite. Mm-hmm. Même quand ils ont signé les contrats, le décembre 2016, tout le monde, moi, je savais qu'il n'y aura pas d'élection. On ne peut pas faire de la magie. Déjà, là, je ne condamne pas. Même s'il y a des soupçons, il y a la collusion avec le pouvoir, mais en réalité, matériellement, on ne pouvait pas organiser les élections aujourd'hui, cette année. Ce qui était prévu dans le premier accord, là, le premier de l'OIA, la première accord de l'OIA, et c'est ça, puisque normalement, l'année prochaine, qu'on peut espérer organiser les élections. Il est connu déjà que Kabila, il a voulu rester au pouvoir. Il n'y a pas un secret, puisqu'on sait comment est-ce que la tentation de changer la politique.
Voilà, oui, mais dans ces conditions, dans ces jeux de cache-cache, si on voudrait les dire ainsi, hein, entre le politique en RDC et la communauté internationale, comment on peut arriver vraiment à s'en sortir? Professeur, on vous garde en ligne. Je rappelle encore, professeur Tchet Albert Bampa, il intervient à partir de Paris, et analyste politique et professeur à la Sorbonne. C'est avec lui que nous analysons toutes ces questions. On les garde en ligne. Il est temps de retourner ici au pays. Et je crois cette fois-ci avec le professeur Ignace Albouachi. C'est bon, professeur, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous. Merci pour l'invitation. Mm-hmm. Je voudrais dire ceci, c'est que quand on parle de l'institution de Bretton Woods, c'est un crédit que nous cherchons. Et quand on parle de crédit, c'est un problème de confiance. Il faudrait que nous donnions l'image d'un interlocuteur confiant pour que ces institutions puissent nous tendre la main. Et ces conditions que cette institution, en parlant des CENI, nous donne ici, il me semble qu'on a tendance à croire que c'est à M. Tshibala que cela est adressé. Non, cela est adressé à toute la communauté, à toute la société congolaise. Voilà pourquoi il faudrait un effort de tous. Les politiques, parce qu'on nous demande une certaine stabilité politique, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse en pensant que c'est seulement Tshibala, mais on doit penser aussi que même si Tshibala pouvait partir, les autres qui viendraient, ils devront aussi faire preuve de cette stabilité, de cette confiance pour qu'on puisse nous tendre la main. Mais il se fait qu'on voudrait, des fois, on lâche la main, je parle ici des politiques, qui se disent, bon, il faudrait que celui-là échoue pour montrer que nous n'avons pas accepté. Mais il faut reconnaître aussi que, par rapport à la stabilité politique, le premier ministre doit se mettre en tête déjà qu'avant de tendre la main, il devait travailler en interne pour reconnaître que lui-même constitue un problème et sa nomination a été la preuve même du problème d'instabilité politique. C'est parti de là parce que sa personne est remise en cause. Il faut aussi reconnaître qu'il y a une part de responsabilité des citoyens parce que quand on nous parle de la maximisation des recettes, il faut une certaine discipline aussi bien à ceux qui sont engagés par l'État dans des régies financières que les citoyens par rapport à la perception des frais et à l'engagement citoyen quant à au paiement, n'est-ce pas, des exigences, taxes et impôts pour renflouer les caisses de l'État. Mais la discipline concerne aussi, ça c'est la tâche du gouvernant, par rapport à ce qu'on devrait faire, par exemple, à la transparence dans l'engagement des fonds de l'État. Il y a eu ici, chaque fois, on pose le problème de la réduction des trains de vie des officiels, c'est qui se fait de manière pas toujours claire. Il y a l'aménagement ou l'amélioration du climat des affaires. Vous conviendrez avec moi que le problème de corruption, la tracasserie financière continue encore à poser autant de problèmes. Donc nous avons autant de défis que nous devrions arriver à améliorer ou à contourner pour, à relever, excusez le terme, pour que l'on arrive à faire l'image d'un interlocuteur qu'on devrait considérer.
Mais professeur Ignace, quand vous évoquez, oui. Professeur Ignace, quand vous évoquez toutes ces questions, est-ce que faudrait-il attendre aujourd'hui ces préalables posés par la Banque mondiale? L'amélioration de la gouvernance, vous l'avez dit des fois dans notre émission, l'amélioration de la gouvernance, la question de la transparence, des traçabilités, des recettes, des corruptions, ce sont des éléments qui sont évoqués régulièrement. Est-ce que ça prend une note particulière parce qu'il y a cette proposition du Fonds monétaire international? Est-ce qu'on peut dire que c'est pas une préoccupation majeure aujourd'hui dans notre gouvernance pour qu'on puisse en évoquer quand on est face aux difficultés financières et qu'il faut recevoir de l'aide internationale?
Moi, je crois qu'on devait aujourd'hui commencer par la stabilité politique, remettre de l'ordre dans notre appareil politique, et cela inspirerait confiance. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est que tant que le lendemain n'est pas sûr par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui, des tiraillements à gauche, à droite, je crois que le reste ne pourra pas marcher. Donc il est grand temps que les politiques d'abord se mettent ensemble, et quand ils se mettent ensemble, on voit une vision générale sur ce qu'on devrait faire pour gagner la confiance de ceux qui doivent nous aider. C'est beaucoup plus important. Je dis en moi que l'instabilité politique, c'est un problème qui a d'impact sur tout le reste de conditionnalités qui sont données. Voilà à peu près comment moi je vois les choses.
Merci beaucoup, professeur Ignace. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot et Lamengi.
On se rappellera que parmi les priorités définies par le Premier ministre Bruno Tshibala, c'était l'organisation des élections et cette sollicitation auprès du Fonds monétaire international, les préalables qui sont posés. Est-ce qu'on peut dire que cela peut rendre aussi la tâche difficile au gouvernement de pouvoir trouver le fonds nécessaire afin de répondre à ces besoins impérieux qui est, bien sûr, l'organisation des élections comme beaucoup de gens le souhaitent?
Oui, merci beaucoup, Pierrot, de la parole que vous m'accordez. Effectivement, ça va compliquer davantage la tâche pour l'organisation des élections. Mais le problème, tout le monde doit se poser, où est-ce qu'il vient? Le problème vient dans les chefs de ceux-là qui sollicitent même l'aide des institutions de Bretton Woods au jour d'aujourd'hui. Parce que lorsque nous avions suivi ces débats sur d'autres chaînes étrangères, on a rappelé au régime, j'ai dit bien régime et non au gouvernement, au régime congolais, que vous, lorsque vous étiez en place, vers 2008-2009, vous vous êtes violemment attaqué aux institutions de Bretton Woods, disant que non, voilà, nous n'avions jamais vu ces institutions-là faire développer un seul pays au monde. Vous êtes allié à la Chine, et au jour d'aujourd'hui, c'est le même régime qui fait donc 1000 pas en arrière pour venir solliciter donc de l'aide auprès de la de ces mêmes institutions. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je pense que le gouvernement congolais devait répondre à certains préalables soulevés par l'FMI qui ne sont pas aussi difficiles, parce que la plus grande interrogation, c'est ce qu'on reproche au gouvernement, c'est ce manque-là de confiance. Parce que rappelez-vous, lorsque il y avait tractation pour la sortie du gouvernement actuel, les FMI et la Banque mondiale étaient déjà montés au créneau pour dire que oui, nous sommes disposés à collaborer avec le gouvernement congolais, mais à la seule condition qu'il y ait des personnes crédibles. Au jour d'aujourd'hui, la personne qui sollicite l'emprunt n'est pas crédible, ni aux yeux de la population congolaise, ni aux yeux des institutions étrangères. C'est ce qui pose maintenant problème. Donc, ce qui fait que le gouvernement congolais peut rapidement corriger, parce que nous avions suivi même la MONUSCO il n'y a pas longtemps, même la communauté internationale, en train de réclamer accord et accru le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Moi, je pense que si ce respect-là est fait, par exemple, au jour d'aujourd'hui, vous verrez que la confiance va naître entre les institutions de Bretton Woods et aussi le régime en place. Deuxièmement, il y a un problème, c'est que tout le monde est en train de déplorer la maximisation des recettes. Est-ce que c'est difficile pour maximiser les recettes lorsque nous voyons très bien que les individus sont plus riches que l'État congolais lui-même? Et mais c'est sur la barbe de l'État congolais qui ne fait absolument rien. Et c'est là qu'on sent, on est en train de dire l'État là est aussi complice par rapport à cet enrichissement indûment. Donc, de ces personnes, ce qui fait que la lutte sans merci de cette impunité-là fera aussi des affaires au gouvernement congolais. Et enfin, moi j'ai toujours proposé que les jours où le gouvernement congolais prendra la question de maximisation des recettes comme sa propre priorité, parce que nous voyons beaucoup de pays aujourd'hui au niveau de l'Afrique qui ne...
Voilà, on a des petits soucis avec Maître Adrien. On l'a perdu tout à l'heure alors qu'il continuait son argumentaire. Il est revenu sur le corollaire entre la crise politique et ses relations avec le FMI pour pouvoir trouver cette aide. Et il estime que c'est un problème, une question de confiance. Et quand il y a une crise de confiance, il y a un compatriote qui le disait tout à l'heure, quand il y a une crise de confiance, que ce soit entre les gouvernants et les gouvernés, ça sera difficile aujourd'hui d'être soutenu et de pouvoir s'en sortir. Nous restons à Kananga avec vous, Timothée. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Timothée.
Bonjour, merci, Pierrot.
On vous écoute, Timothée.
Oui, merci beaucoup. Nous nous trouvons très heureux de question que ce gouvernement puisse encore contracter d'autres dettes qui pourraient être nuisibles envers les Congolais, du fait que nous savons que ce gouvernement n'a pas l'approbation populaire et même de cette même communauté internationale. Le gouvernement n'a même pas cette volonté de mieux planifier sa vie politique et économique afin de pouvoir subvenir à ses besoins, mais on recourt toujours à ses dettes. Parce que nous avons peur aujourd'hui que lors des années de Mobutu, le corruption, et ce qui a vraiment mis l'économie de notre pays à terre. Et nous avons aussi peur que ce même gouvernement qui est engagé, qui n'a même pas pris de temps, puisse encore contracter les dettes qui pourront encore avoir des conséquences nocives sur la vie de notre État. Mais ce même gouvernement a toujours clamé la souveraineté. Alors on se demande si cette souveraineté est seulement politique et non pas aussi la souveraineté économique, parce qu'ils ont dit et lors de leur investiture qu'ils devraient faire pour modifier local, c'est-à-dire à travers les impôts et taxes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour directement recourir à l'emprunt extérieur alors que nous savons que ces terrains n'ont pas encore engagé eux-mêmes.
Voilà. Et parce que vous l'avez dit, le Premier ministre avait insisté sur la lutte contre l'impunité et la corruption qui devait vraiment être le socle pour financer son budget. Et vous estimez qu'il serait mieux d'abord de travailler là-dessus avant de pouvoir recourir à l'extérieur. Merci beaucoup, Timothée. Nous revenons à vous, professeur Cheta Albert Bampa. Vous intervenez en direct de Paris. Alors, vous avez suivi les uns et les autres la question de l'amélioration de la gouvernance, la maximisation des recettes. C'est pas de préalable qu'on puisse rappeler aujourd'hui au gouvernement congolais, parce que ce sont des choses qui devaient être inscrites dans le programme politique. Mais à un certain moment, on a vu avec le gouvernement Matata, où on a pu vanter la stabilité du cadre macroéconomique. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme on le disait en début d'émission, que la plupart des mesures qui ont été prises ou des actions, c'était toutes juste des actions conjoncturelles?
Oui, c'est ça. Je voulais revenir sur ça. C'est la question fondamentale. Pourquoi nous avions connu la croissance forte et on se retrouve aujourd'hui avec ces problèmes? Donc, en gros, je vais dire quoi? Lorsqu'un pays connaît une forte croissance, c'est à ce moment-là qu'on peut mettre des réformes en profondeur économiques en particulier, même sociales en particulier. C'est maintenant qu'il y avait cette chance d'arriver au pouvoir et de connaître la forte croissance. Alors, le Matata, il n'a pas mis des réformes, de bonnes réformes. Et la preuve, ça se montre, puisque les gens pensent qu'aujourd'hui, il est tenté de camoufler ça, il dit non, il faut comparer ce qu'il a fait. Non, Matata, lorsqu'il était au pouvoir, il a bénéficié de ce qu'on appelle l'alignement des planètes. Il y avait la baisse considérable du prix des matières premières, du prix du pétrole en 2014. Lui, il dit ça par rapport à sa politique. Non, c'est faux, archi-faux. Et puisque nous sommes consommateurs nets du pétrole, c'est-à-dire la baisse du pétrole, ça signifie la, l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais. C'est-à-dire, la forte croissance du respect de 10% de 2014 ne s'explique pas par la bonne politique des prix de Matata. Non, ça s'explique seulement des conjonctures de la mondialisation. Voilà. Il a aussi bénéficié d'un point important lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2012. Et à ce moment-là, on a commencé à sentir les effets d'annulation de la dette. Mais la RDC des pays, puis la dette, quand vous comparez la dette des années 2001, 2003, 2009 jusqu'à 2010, la dette était considérable. Matap est arrivé au pouvoir et la dette a été annulée. C'est la conjonction de ces deux facteurs qui expliquerait la relative performance de Matap. Et aujourd'hui, de pas qu'il voit, et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là, il y avait la planète de voir pour mettre des réformes en profondeur. Pourquoi? Les réformes, tout ce que les gens disent là, la bonne gouvernance, c'est comme ça. C'est quoi la bonne gouvernance? C'est-à-dire diminuer le niveau, par exemple, de la corruption. C'est à ce moment-là, diminuer le niveau, c'est pas qu'on peut dire qu'on vivait la bonne gouvernance. C'est-à-dire mettre des contraintes contraignantes, quelqu'un qui dévie, il doit être condamné, arrêté et jugé. Équitablement. C'est ça la bonne gouvernance. C'est-à-dire, quelles sont les mesures, mais c'est une réforme. On ne peut pas dire à un juge qui est mal payé et de sanctionner un dirigeant, par exemple, celui qui a fui récemment la, l'ami de Matata, qui a fui la, le gars qui a fui qui dirigeait les FPI, le fonds industriel.
Fonds de promotion de l'industrie, oui.
Gars, il a volé. Voilà, il a volé. Il n'y a pas de contraintes, on prend ce type, on le met en plus, on le juge qui rembourse ce qu'il a. Il a gagné. Il y a aussi un problème de réputation. Aujourd'hui, regardez-moi. Qu'est-ce qui prouve que les gens là, ils forment, par exemple, aujourd'hui, on a suivi, il y a un collaborateur de Matata, il a détourné des millions. Où est-ce que Matata a trouvé l'argent pour payer sa fondation de millions de. Si on prend par exemple les salaires seulement des premiers ministres, il ne peut pas avoir cette fondation de millions. C'est-à-dire, il y a une réputation aujourd'hui dans la tête. Et c'est prouvé. Le dernier prix Nobel de l'économie, le prix Nobel français qui a prouvé qu'il a développé en 1996 le modèle de réputation de corruption. Pourquoi? Le comportement du passé influe sur le comportement des dirigeants présents. Pourquoi? Il sait qu'aujourd'hui, notre premier ministre, il sait que Matata s'est comporté comme ça. Il y avait aussi d'autres choses qui nous disent tout ce comportement. Il a détourné l'acheter de l'époque, tout a connu. Tous ces comportements influent sur les comportements aujourd'hui. C'est-à-dire une forme de réputation. Comme les autres se sont comportés comme ça, et ils n'ont pas été dérangés, puisqu'aujourd'hui, dans un pays qui se respecte, n'a pas aujourd'hui de l'être étranger, d'où sont venus ces ressources de millions pour faire sa fondation.
Alors, quand je disais tout à l'heure, oui, professeur, je disais tout à l'heure le jeu de cache-cache pour, avant d'écouter d'autres auditeurs, un peu rapidement, mais au niveau des institutions de Bretton Woods, que ce soit les fonds monétaires, on connaît cette question de train de vie hein, des officiels dans les pays comme la RDC, on connaît la question d'enrichissement, mais cela n'empêche pas quand même à ces institutions de pouvoir accompagner ces institutions, quel que soit d'une manière cet enrichissement spectaculaire.
Voilà. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à l'introduction, c'est qu'il y a un problème d'asymétrie de croissance. C'est-à-dire, même le gouvernement qui va là, il aura cette réforme. Même tous ceux qu'on est tenté de dire, non, il aura cette réforme. Et la RDC est membre de FMI depuis 1967, et tous les pays qui demandent, on ne les refuse pas, on va peut-être diminuer le montant et échelonner, tout comme ça, on va les donner. Mais le problème fondamental, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent du moment où il n'a pas présenté son programme de réforme? Et là, je vais commencer à énumérer la première réforme. Ça, c'est la réforme à court terme. Une réforme qui peut facilement mettre en œuvre, c'est la revenir sur la réforme de l'ouverture. En 2001, on a mal ouvert notre économie. Mais en 2001, on a mal ouvert notre économie. Pourquoi? C'est-à-dire, quand le gouverneur, l'ancien gouverneur, il s'est dit, non, on a libéralisé l'économie qui était contrôlée par l'ancien président, tout ce qu'on a. Non, c'est faux. Sauf que le gouvernement a oublié ceci. Avant d'ouvrir une économie comme la RDC, il faut d'abord mener une enquête, une étude du déficit. Nous sommes où la RDC? La RDC, c'est une économie très loin de la frontière de la technologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir à la fois l'ouverture de commerce et à la fois toutes les forces. On doit choisir quel est le secteur qui doit être ouvert.
Alors, professeur, on comprend qu'il y a, beaucoup de choses à dire là-dessus, mais permettez qu'on prenne les deux derniers auditeurs. On revient à vous rapidement. La question est là, une matière très, très abondante. On va prendre rapidement Eli Lokwa qui est en Mbandaka. Eli, en 45 secondes, on a lu votre commentaire sur la page Facebook. Qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement, Eli Lokwa?
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Il est vrai de reconnaître qu'il y a l'instabilité économique dans notre pays. Mais il faut savoir que tous les donateurs occidentaux sont très réticents à aider le gouvernement de Kabila, qui a refusé de démissionner lorsque son mandat avait expiré le décembre dernier. Voire ils accusent même également les forces gouvernementales de violations massives et répandues des droits de l'homme suite aux arrestations arbitraires et quelques cas des atrocités. Voire au Kasaï, on a découvert combien de fausses communes, 80 fausses communes. Aujourd'hui, le pays a une crise politique notoire. Et voire madame elle-même, madame la directrice du FMI, avait avant tout envoyé une délégation de ses électeurs pour une
Alors pour vous, vous estimez que dans ces conditions, c'est difficile s'il n'y a pas ces franches relations entre la RDC et la communauté internationale autour des affaires politiques, ça sera difficile qu'on puisse librement aider. Mais le professeur l'a dit, on finira toujours par pouvoir aider la RDC. Mais la question, c'est de savoir, on va faire quoi avec cet argent dès lors qu'on n'a pas un programme cohérent qui a été présenté. Merci beaucoup, Eli. On va terminer avec vous, Maître Gaston, aussi. En 50 secondes, votre point de vue autour de cette question.
Oui, mais la communauté internationale n'a jamais cessé de nous aider. Ils ont commencé avec Kabila, vous ne l'ignorez pas. Hein. Il y avait des rencontres politiques à l'époque, il y a eu des constructions sur le plan économique, des infrastructures, et maintenant, ce sont des négociations politiques, ils sont toujours avec nous. Donc il ne faut pas imaginer que ces gens-là nous abandonneraient. Peut-être, lorsqu'ils imagineraient à changer le régime, à ce moment-là, ils peuvent abandonner Kabila, mais juste là, ils soutiennent M. Kabila, hein. Ils l'accompagnent un peu pour tout. Et d'ailleurs, je dirais même qu'ils sont complices de M. Kabila. Mais maintenant, la tendance n'est plus à construire sur le plan économique, social, mais surtout sur les forums, réunir les politiciens, les trucs comme ça, pour que Kabila soit encore là, parce qu'il est encore là. Il faut pas imaginer que ces gens-là sont contre Kabila. Il faut aussi retenir que c'est toujours comme ça avec les pays africains. Hein. Des fois, c'est les guerres, c'est la guerre concernant la lutte au pouvoir, tantôt...
Alors pour vous, vous estimez que vous estimez pour vous maître oui maître Gaston, vous estimez que si vous avez parlé du président Kabila en tant qu'individu, alors vous estimez que la communauté internationale accompagne le président Kabila, mais ici nous évoquons la question de l'aide sollicitée par le premier ministre, et pour vous êtes dans cette logique que cette aide finira par être donnée. Pour vous, la communauté internationale n'a pas abandonné le président Kabila, mais aussi par ricochet les gouvernements. Merci. On revient à vous, professeur Albert Acheta Bampa, pour terminer, parce que là on n'a qu'une minute. On a évoqué la matière, elle est très abondante, mais quand même, vous avez suivi les auditeurs qui disent on finira toujours par aider le gouvernement congolais, mais la question c'est de savoir, mais on construit sur quelle base économique qui puisse permettre à ce qu'on vive une stabilité à longue durée. Rapidement pour terminer.
Oui, juste simplement souligner quelque chose. Il y a dernièrement, le Matungulu a intervenu, il a souligné quelque chose, je suis d'accord avec lui. Il y a un problème qui est des réformes faciles à mettre en œuvre, prélèvement de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça s'élève le coefficient à 8%, alors que dans le il y a en tout plupart des pays d'Afrique subsaharienne qui est à 20%. Vous voyez la différence? Oui, à 20%, on peut combler notre déficit et notre problème de financement aussi avec seulement la seule mesure de mettre en œuvre, c'est-à-dire ce que les autres disent, la mobilisation des recettes. C'est-à-dire, il y a un problème, je dis, il y a 8%. Quand on calcule 8%, les 40 milliards de dollars de notre PIB, ce qu'on produit, ça fait 3 milliards,2. Et si on augmente à 20%, c'est l'écart de 12%, on aura atteint 8 milliards. Vous comprenez déjà 8 milliards, c'est-à-dire que c'est ce que nous voulons notre budget arrive à 8 milliards, 13 milliards. Aujourd'hui, il est en dessous de 5 milliards. Donc, il suffit seulement de mettre des mesures qui ne sont pas même pas des réformes, de faire la contrainte,
de contrôler les entreprises. Par exemple, il y a les taxes, il y a des tournements d'État, de la CVA. On donne des machines, on achète des machines, toute transaction doit être enregistrée dans la machine.
Voilà. Merci beaucoup, professeur. On n'a pas eu vraiment le temps d'épicer toute la matière, mais là, vous êtes revenu pour dire que s'il y a cette transparence, que ce soit dans la passation des marchés, dans ce qui est payé pour les trésors publics, ces mesures urgentes, si elles sont prises, on peut arriver à faire face. Merci, professeur Tchet Albert Bampa. Vous êtes économiste et professeur à la Sorbonne. Vous intervenez en direct de Paris. Merci à Gilles Lungembo qui était à la réalisation et la coordination de ce magazine. Mise en onde par Héritier Sigakala. Pierrot Lamejie vous l'a présenté. L'émission est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Au revoir.